Chapitre 9. Là-bas, dans Nézignan-l'Évêque, l'oncle Alcide languissait après Mathilde. Il déclara un jour à sa sœur que tous deux, par économie, devraient aller dans la capitale, vivre auprès de leurs enfants, au même foyer, à la même lumière. Mère Adèle ne se fit guère prier, car, de son côté, elle languissait après son fils et elle espérait obstinément le ramener dans leur sage Languedoc. Sans vendre les propriétés de l'Hérault, ni la maison du plan des Sauvages, ils s'embarquèrent pour Paris. Le lendemain soir, Mathilde et Sébastien, escortés des Baudois, attendaient les deux voyageurs à la gare de Lyon. Quelles embrassades sur le quai! Quel caquetage! Mathilde s'en irrita la première. « Prenons une voiture, s'écria-t-elle, pensez à vos bagages. » « C'est vrai, acquiesça l'oncle, n'emportons aujourd'hui que nos malles. » Couvert de poussière et de charbon, il bouscula sa serre harassée qui s'enveloppait d'un châle à cause du froid terrible qu'on lui avait prédit à Paris. Léon, pour ne pas se séparer de Mathilde, commanda un omnibus capable de contenir tout le monde. Bientôt, on partit en famille pour la rue Chauchat. L'oncle brûlait de ses yeux avides le visage de Mathilde, dont la clarté, toujours comme celle d'une étoile, dégageait de la joie. Pour tromper sur ses idées de concupiscence, il entama une conversation à propos du magasin. Les trois hommes, avec leur impétuosité de méridionaux, cherchant à s'éblouir les uns les autres, ne parlèrent tout le long du trajet que de leur fortune prochaine. Mère Adèle réclamait bien quelques éclaircissements précis sur ce commerce. Berthe, de temps à autre, se plaignait des gaspillages de son mari. Mais les trois hommes, loin de répondre à ces femmes tatillonnes, s'évertuaient à briller par l'intelligence devant Mathilde. Celle-ci, à de telles discussions d'argent, faisait la moue. Au milieu de ces êtres de mensonges qui riaient de tout, sans avoir la sécurité du lendemain, devinait-elle que sa jeunesse, dans leur médiocrité de bourgeois vaniteux, risquait de s'enliser ? Sur les boulevards, elle envia les femmes libres, belles, en causette avec des hommes qui lui semblaient cousus d'or et discrets. Rue Chauchat, dès que les Baudois eurent pris congé, Sébastien interrogea, non sans anxiété, son épouse. « Souffres-tu de quelque chose ?»«
De rien, mon chéri. »«
Tu n'as pas l'air content. »«
Au contraire. »
Elle ôta son chapeau, son collet, mit ses pantoufles et réfléchissant qu'elle devait, pour son intérêt, persévérer dans la douceur et dans la ruse, elle ajouta
« J'ai pitié de ta mère, je vais lui apporter un bouillon. »«
Chère Mathilde !» Elle s'en fut dans la cuisine, pressée la bonne. D'ailleurs, elle éprouvait, à l'égard de Mère Adèle, une tendresse d'enfant. Pauvre femme si crédule, dans quelle calamité elle se jetait avec son argent et son cœur. 2 ans peut-être, selon les prédictions de M. Jaume, la fortune des Lampéric résisterait au coup du torrent qui, dans Paris, roule tant d'épaves. Ensuite, que deviendrait-elle? Qui la recueillerait? Mathilde s'apitoyait d'autant plus sur son sort qu'elle-même se connaissait trop faible pour soutenir, dans les épreuves, une femme qui, après tout, n'était pas sa mère. Sébastien avait rejoint les deux voyageurs dans la salle à manger. Brusquement, ils l'interrogèrent sur le bonheur de son mariage. « Oh ! S'exalta Sébastien, tout marche à souhait. Mon magasin est connu de Paris comme l'opéra. Ma femme ne pense que par moi. T'es !» « Regardez si nous sommes bien logés !» Les deux provinciaux demeuraient, en effet, ébahis du confortable de cette bonbonnière rouge, dorée, douillette, où ronronnait le bruit des rues, pareil à la rumeur d'une mer lointaine. Mathilde apportait 2 bols de bouillon. L'oncle, au passage, lui baisa le bras. On se mit à rire. Sébastien, le premier, tandis qu'elle punissait le vieux Drille d'une tape sur la tête. « L'oncle, vous vous dites fatigué et vous songez à la gaudriole. » Il dégusta le bouillon sans répondre. Il voulut se coucher tôt, en même temps que sa sœur. On leur avait aménagé, au fond de l'appartement, 2 chambres exiguës, sourdes, parfumées de tapis, de linge neuf, des chambres de demoiselles. Ils s'émerveillèrent une fois encore de la poésie que, dans la capitale, les objets les plus vulgaires répandent sur les murs.
Mon Dieu, Sébastien ne dépensait-il point, par hasard, tout son argent d'un coup ? Mère Adèle, hypnotisée par tant d'élégance, ne protestait plus, de crainte de paraître sotte. L'oncle, lui, se défendait de raisonner. Il couchait dans le même appartement que Mathilde, et cette satisfaction absorbait, pour l'instant, les forces de ses sens et de son cerveau. Ils dormirent si bien dans leur lit profond qu'ils se levèrent tard. Mathilde désira vite montrer Paris à la mère Adèle. Celle-ci s'habilla de dimanche, robe de soie, raide autant qu'une cloche, bonnet de satin serré au front. Après le déjeuner, elle suivit sa bru, avec quel orgueil d'une enfant radieuse que tous les passants enviaient. Dans les rues, au milieu du tintamarre de la foule, elle riait de ses frayeurs de paysanne, et pour traverser les chaussées, elle soulevait sa robe comme pour franchir un ruisseau. Sur les boulevards, aux enluminures de foires grouillantes, ce fut soudain pour ses yeux la révélation d'un monde de gaieté et de labeur. La richesse des boutiques, la fièvre d'un peuple mêlé de tant de races, sur les trottoirs encombrés, toute cette rumeur d'une vie sociale en fermentation la saisit de joie en son cœur de languedocienne. Et parmi la clarté des feuillages et du ciel bleu, elle s'écria « Moi aussi, j'aime Paris ! Ah, si nous pouvions y rester !»« On y restera toujours, » répondit Mathilde. Boulevard Poissonnière, elles durent, pour arriver jusqu'au magasin, s'insinuèrent à travers plusieurs rangs de badauds. L'oncle y était rendu déjà. Mère Adèle, devant la magnificence de l'agencement, éprouva de l'angoisse. « Tout est payé ? » demanda-t-elle. « Parbleu !» répliqua Sébastien. « Et vos bénéfices ?»« Nous n'y comptons pas avant l'hiver. » Elle n'osa plus manifester ses scrupules, livrée désormais à la fatalité des choses trop belles, à l'inspiration de ses enfants instruits qui la dégourdiraient. Titubant un peu de ses émotions confuses, elle se laissa entraîner au dehors par Mathilde. L'oncle fit mine de les suivre. Mathilde, sans ménagement, le rabroua. « Restez au magasin, vous y serez utile. »« Moi ? Votre âge inspirera confiance. » »« Pas mal. » « Voilà 2 heures que je m'y promène avec ces messieurs et pas un client n'est entré. » On le laissa geindre sur la porte. Chaque jour, les deux femmes sortirent ensemble pour des promenades si longues que Mère Adèle, enfin, implora du répit. « Tu me tuerais, mon enfant. Aujourd'hui, reposons-nous. » Mathilde, cependant, ne pouvait pas, en domestique, se cloîtrer dans l'ombre ennuyeuse d'une maison. Elle avait bien, par le mariage, abandonné son corps, mais son esprit, son cœur, n'appartenaient qu'à elle. Le bon Dieu l'avait, avec ses charmes, doué d'une richesse assez honorable pour qu'elle revendiquât l'entière joie de vivre. Elle songea, pour se consoler, auprès de Mère Adèle, des tristesses de son appartement, à l'homme simple et humilié de sa race, à Pierre. Si elle savait dissimuler ses langueurs en présence de Sébastien, qui la gâtait comme une maîtresse, elle s'irritait des obsessions de l'oncle. Mais une idée vint à Mathilde de profiter, justement, pour le plaisir de son corps, des malices de ce vieux singe. Un samedi soir qu'il grondait devant sa chambre, contre la porte close, malgré les remontrances de Mère Adèle, la jeune épouse apparut précipitamment pour lui dire « « Mon oncle, soyez sage. Demain matin, nous irons tous les deux voir Paris. »« C'est vrai ? » ?»« Je n'ai qu'une parole. » Ils rentrèrent, satisfaits l'un de l'autre, dans le boudoir, auprès de Mère Adèle, qui gourmanda son frère. « Pourquoi tracasses-tu Mathilde ? » ?»« Eh, c'est pour elle que nous sommes venus dans ce bazar de Paris, et je ne jouis jamais de sa personne. » Mère Adèle, se tournant vers sa bru, soupira. « Tu nous fais à tous tourner la tête. Mon frère est si original. Pardonne-le. »« Mais oui. » L'oncle à table dérida sa figure, si impassible d'ordinaire. Sébastien souriait de haut, avec importance. Lorsque de très bonne heure l'oncle gagna sa chambre, Mathilde lui recommanda de dormir sans souci. « Oui, petite, remercia-t-il, demain j'aurai la jambe alerte. » Il frétillait, tel qu'un poisson dans l'eau en été. Malgré ses efforts, il dormit peu. Le jour blanchissait à peine la rue qu'il s'élança vers la fenêtre afin de consulter la couleur du temps. Il se purifia d'ablutions sans nombre, revêtit coquettement ses habits les plus jeunes. Bien avant l'heure convenue, il se présenta dans la salle à manger que quittait la servante, armée de son plumeau et de sa brosse. Bientôt, il se fatigua d'attendre. C'est que Mathilde procédait aussi à une toilette minutieuse, baignant son corps d'eau froide, le parfumant comme une œuvre d'art sacrée. Et songeant à Pierre, qui jamais n'avait connu les joies de l'amour que dans leur simplicité, elle frissonna de l'orgueil nouveau de lui apporter une révélation de beauté, de vie, une fête de chair que l'aristocratie de son linge faisait divine. Enfin, elle sortit de sa chambre en froufroutant de la jupe et brave, rieuse, elle apparut dans la salle à manger à toute la famille qui s'extasia. L'oncle d'un bond de cabri se redressait. Elle l'apaisa. « Déjeunons. C'est pour nous qu'il fait soleil. » Mère Adèle notait point les yeux de l'enfant qui répandait, ainsi qu'un buisson de roses, tant d'innocence. Son cœur pourtant se serrait d'une inquiétude de la trouver trop belle, semblable aux femmes du péché. Sébastien, trempant ses tranches de pain dans le chocolat, pâlissait d'amour. Au moment du départ, il vérifia la toilette de Mathilde, lui offrit de l'argent. « Si nous ne sommes pas rentrés à midi, ne nous attends plus, » dit-elle. « Oh, je t'en prie, je t'attendrai. Ton oncle me mettra en retard, j'en suis sûre. » Elle riait, sans aucun émoi de honte. Adressant à son mari un dernier baiser, elle descendit rejoindre l'oncle qui, au bas de l'escalier, piétinait d'impatience. Superbe, lui aussi, en son pantalon et sa jaquette noire, son gilet blanc, la barbe mouillée de brillantine, il lui offrit le bras dans la rue. Elle feignit de ne pas comprendre, disant « Nous irons au bois de Boulogne. Prenons une voiture. » « C'est trop cher. Nous monterons sur l'impériale d'un tramway pour bien jouir du spectacle de Paris. »« Va pour le tramway. » Rue Tête-Boue, ils s'empressèrent, au milieu d'une affluence énorme, vers les marchepieds d'un tram qui rentrait à peine de sa course. Ils purent monter les derniers. Heureusement pour Mathilde, les deux places étaient séparées par toute la longueur de la voiture. Elle ordonna à l'oncle de se caser au fond de la banquette, tandis qu'elle-même s'asseyait près de l'escalier. Le tram démarra. Mathilde, alors, se troubla dans ses résolutions. Aurait-elle la force de commettre le crime d'ingratitude, de se jeter dans une aventure dont les conséquences pouvaient ruiner sa fortune? Mais Pierre, elle languissait de le voir. Elle le trompait depuis longtemps. Que de compensation ne lui devait-elle pas? Si elle arrivait à sa maison trop tard, ne s'ennuierait-elle pas, seule dans Montmartre? Et si, la première fois, elle manquait de courage, ne connaîtrait-elle pas, ensuite, dans ses velléités de révolte, des défaillances pires? Alors, méprisant ces lampériques qui dévoraient leurs biens par gloriole, sans s'amuser de la vie, elle se leva d'un sursaut à la deuxième station, descendit le roi d'escalier, et d'un essor, partit, sans se détourner une seconde, à travers la foule stupéfaite. L'oncle Alcide, bien sage au fond de la banquette, suçait paisiblement le bout de sa canne, lorsque, rue Lafayette, Mathilde ailait un cocher maraudeur et se faisait vite porter à Montmartre. Le désir d'amour caressait son cœur frais, qu'elle sentait nu, son sein parfumé comme une vigne en fleurs. Rue Germain Pilon, dès qu'elle eut payé le cocher, elle grimpa dans la maison de Pierre. Tout en haut, elle n'eut qu'à pousser la porte. Pierre, en manche de chemise, s'était débarbouillé ce matin à grande eau de savonnade. Il se séchait maintenant au soleil qui entrait par la fenêtre comme un oiseau. À la vue de Mathilde, il recula de stupeur. « Toi, ici, que viens-tu faire ?» Elle souriait, un peu rouge de précipitation, rejetait sur la table son manteau, son boa, son ombrelle. « Tu as peur, Pierre ?»« Ma foi, que peux-tu vouloir ?»« De toi, rien et tout. Est-ce que tu m'oubliais ?»« Non, mais je n'espérais plus. Tu viens par compassion me dire tes promesses une fois de plus et puis tu t'envoleras pour que ma chambre soit plus triste. »« Non !» J'ai juré que, malgré les apparences, je ne t'oublierai jamais. Je viens te prouver que je ne mens pas. » Elle s'asseyait sur le lit en désordre. Elle regardait Pierre avec attention, en humectant ses lèvres de sa langue pointue. « Est-ce possible ? » bredouillait-il. « Tu es à moi ?» Lui, sur ses pieds robustes, sentit tout à coup un vertige le faire chanceler. « Au moins un jour. »«
Un jour ?»«
Je fais ce que je peux. Nous verrons plus tard. »« Ce n'est pas un reproche que je t'adresse. » « Oh, mon ange, tu m'apportes le paradis. Un jour de bonheur, pour moi, c'est une éternité. »
En extase, l'un devant l'autre, ils se regardaient avec une vertu d'amour qui, à maintes reprises, comme une flamme, les rapprochait dans un baiser.
Elle goûtait, sur la bouche résistante de Pierre, entre ses bras musclés, le délice d'une virginité nouvelle, d'une vie brutale et pure, imprégnée des odeurs de la terre. Dans sa volupté, une fois, elle ferma les yeux comme dans un songe et se renversa câlinement sur la couche modeste. Il eut alors un scrupule de paraître la ravir de surprise en un moment de folie. Un peu fâchée, elle rouvrit les yeux et murmura «
Qu'as-tu ?
Tu es trop dame, je crains.
Ah, baste ! Crois-tu que je pense à ma toilette ? Ils m'en paieront une autre. » Je l'ai certes gagné par tant de sacrifices que je leur consens chaque jour. Ferme donc la fenêtre, tire les rideaux. »
Pierre obéit, tout frémissant de la sève qui remuait jusque dans son cœur. Elle, à la hâte, dégrafait son corsage. Lorsqu'il se retourna, il la vit demi-nue, débarrassée de ses parures, dans la pénombre que le soleil, à travers le rideau, teignait de pourpre. Elle se taisait, presque farouche, paraissant plus grande sur les draps où sa beauté mettait de la noblesse. Ses yeux brillaient d'une fixité ardente, deux astres dorés au cœur de la nuit. Ses mains en prière attiraient doucement son camarade de toujours, son serviteur. Pierre, ému d'admiration et de respect, n'osait pas s'avancer.
« J'ai toujours été à toi, lui dit-elle. Quand l'autre m'embrasse, c'est à toi que je pense. »
« L'autre !» maugréa Pierre. Il s'approcha lourdement, jaloux, avide d'étouffer entre ses bras, sur le sein de Mathilde, l'image de l'homme qui, de par l'argent maudit, lui avait volé son trésor. La rumeur du faubourg, dans les loisirs du dimanche, résonnait gaiement par les rues et les maisons, parmi les arbres trop rares, mêlés aux chansons des cloches sur les toits. La chambre de Pierre jouissait d'une tranquillité sûre. Le soleil, par le rideau rouge, versait sur les murs un feu sombre. Lorsqu'ils se séparèrent, les deux amants sourirent au soleil, puis à eux-mêmes.
« Je me suis émancipée de ma servitude, » dit Mathilde.
« J'ai honte tout de même de ne point te posséder à ma fantaisie. »
« On n'est pas maître de son destin. Dieu nous a fait pauvres, mais il nous a fait beaux.
Il faudra que j'attende ton nouveau caprice. »
Tu ne me verras du moins qu'aux heures de bonne santé et de bonne humeur. Nous passons d'abord ce dimanche ensemble.
Vrai ?
Je suis à toi jusqu'à ce soir.
Elle se rhabillait soigneusement, avec l'orgueil de lui révéler les secrets de sa coquetterie mondaine. Ils avaient entrouvert le rideau. La chambre, illuminée des francs regards du ciel, ne sentait pas le péché du tout. Pierre n'en finit plus, à son tour, de s'apprêter comme pour une noce, afin d'honorer sa compagne. Dès le moindre contact, il la bourrait de baisers et de chatouilles. Elle riait, puérile, brûlant encore de sa joie.
« Tu me verras chez moi, » lui dit-elle.
« Chez toi, tu as tous les toupets, mais celui-là, non, je n'y crois pas. »
« Écoute, nous allons donner un grand repas. Tu y seras invité. »
« Tu te moques de moi. Où allons-nous maintenant ?»«
Où tu voudras. » Pas au bois de Boulogne pourtant, nous y rencontrerions un vieux singe qui renifle constamment à mes trousses.
Oui, l'oncle de mon mari, c'est un loufoque.
Où allons-nous ?
Tiens, sur les bords de la Marne, mes amis, à l'atelier, en vantaient beaucoup les parages. Sur le seuil, Pierre hésita. Oserais-je te suivre en mon costume d'ouvrier ?
Est-ce que je songe à tes apparences ?
À présent que tu me connais, tu dois mépriser tout le monde. » Elle l'entraîna. Auprès de lui, dans la rue, elle recouvra peu à peu sa fraîcheur et sa simplicité. En fiacre découvert, ils partirent pour la gare de Vincennes à travers les bruits de la ville en liesse de son dimanche. À la Bastille, ils montèrent royalement en première. Sur les coussins moelleux, ils s'embrassèrent aussitôt, avec une douceur d'aller à la terre demander sa bénédiction. Depuis longtemps, ils l'avaient revu, hors des remparts, de l'eau, des arbres, le vaste ciel éclairant les campagnes. À Champigny, ils descendirent, au hasard, vers la Marne boueuse qui attire dans ses prés des pavillons et des villas. Le long des haies, cueillant des fleurs, ils se remémorèrent, non sans mélancolie, leur province, les maisons malheureuses de leur famille. Ils oublièrent Paris, cet autre enfer, où des maîtres les enchaînaient, chacun à sa misère. De plus en plus, ils croisaient du monde par les sentiers. Alors, comme des voleurs, ils se cachèrent dans une guinguette lointaine pour déjeuner. La table était petite, ils se touchaient des genoux, se becquetaient en échangeant les plats et avec une pudeur agréable quand la servante survenait. Loin des cafés tapageurs, par les bosquets, ils cherchèrent, sans le dire, un endroit touffu. Partout, des promeneurs les dérangeaient à l'improviste et qui riaient de leur désarroi, de leur disparité de leurs costumes et de leurs manières. Ils fuyaient lentement, avec une honte, chassés du paradis de leur amour, en pleine nature. « Si je pouvais au moins te garder ce soir !» gémit Pierre. « Ne fais pas de rêves inutiles, ricana Mathilde. Avoue d'ailleurs que ta chambre manque de confortable. »« Elle n'en manquera peut-être pas toujours. » « Hola, que bourdonnes-tu ? » « Rien, tu m'as dérobé ta personne, je te dérobe ma pensée. » « C'est bon, tu t'en plaindras. » « Eh bien, écoute, il y a quelqu'un qui m'a prise en amitié. » « Quelqu'un ? Une femme ?»« Non, pas une femme. » Il se tut dans l'émotion de la voir, à son tour, troublé par une vision de miracle et de s'être grandi auprès d'elle. Il ne croyait guère aux générosités de M. Jaume, qui aimait trop vivre seul, loin du monde, au milieu de son argent. Mais il se plaisait, en sa perversité de jaloux, à punir Mathilde de ses malices et à la tourmenter d'une sorte de menace. « Tu ne veux pas m'apprendre ton mystère ?» lui demanda-t-elle. « Si je réussis, je te l'apprendrai. Dis-le-moi, Nigo, je pourrais t'aider. » Paysan sournois, afin d'éviter la conversation, il s'échappa dans l'herbe d'un champ. Elle courut aussitôt sur ses traces. Puérils et brutaux, se jetant des cailloux, échangeant des injures, pour rire, ils se poursuivirent longtemps, comme autrefois dans leur campagne. Le soir les surprit au sommet d'une colline. Le soleil avait plongé brusquement, là-bas, dans les gouffres de Paris. Au milieu des champs déserts, Mathilde frissonna de se voir seule au pouvoir de Pierre. La terreur provoqua dans son âme d'enfant un remords anxieux. Si, chez les Lampéric, on ne lui pardonnait pas son escapade, serait-elle contrainte de se réfugier à Montmartre, dans la chambre d'un pauvre ? « Allons-nous-en, dit-elle. Sais-tu en quel endroit nous sommes ?» Ils observèrent la plaine immense où la Marne déroulait son ruban jaune dans les prés déjà noirs, le long des villas bourdonnantes. Au loin, sur une chaussée haute, en bordure de bois épais, un train s'en retournant à Paris, sifflait éperdument, crachait une fumée visible encore à travers l'ombre. Mathilde s'élança sur la pente de la colline. « Viens, il me semble que nous n'atteindrons jamais la gare, viens !» « Quoi, tu t'alarmes, toi qui es si courageuse d'habitude, est-ce à cause de la nuit ou à cause de moi ?» Il l'empoigna furieusement par la taille, ayant la tentation de la garder pour lui seul, à jamais, dans l'inconnu du paysage. Mais, entre ses mains pesantes, sur sa poitrine chaude qui haletait d'amour, elle se débattit, supplia de nouveau. Et, vaincu par son charme, Pierre la délivra, la suivit lâchement. « Je te veux, lui dit-il, je t'aurai coûte que coûte. Je ne reviendrai plus avec toi. Tu me méprises, parbleu, je ne suis qu'un pauvre. Assez, ne t'injurie pas toi-même. » Il marchait derrière elle, contre ses hanches, lui soufflait à la nuque une haleine de bête mauvaise que les esprits de la terre affolent dans les ténèbres. Elle eut peur. D'un bond, elle s'en courut. Puis, par pitié, elle l'attendit à l'entrée d'une avenue où se promenaient des bourgeois paisibles. Elle lui donna la main. Dans la gare, au milieu d'une foule énervée par son dimanche de grand air et de jeu, Pierre éprouva une sensation de gêne auprès de sa compagne, si brillante toujours de luxe et de beauté. Dans leur compartiment de première, des voyageurs, qu'intéressait le pittoresque de ce couple si différent d'aspect et de parure, prirent place sans bruit. Mathilde, assise en face de Pierre, ne baissait pas le front devant ces hommes envieux. Lui, le nez à la portière, regardait patiemment défiler, dans la nuit froide, le bois de Vincennes endormi déjà, des villas éclairées parmi leurs feuillages, et bientôt, après un roulement de tonnerre, sous la voûte des fortifications, les faubourgs de Paris où grouillaient des pauvres, dans une odeur de vieille poussière et d'alcool. Pierre, sur le quai de la Bastille, dans la cohue se ruant vers l'escalier de sortie, s'empara de sa compagne avec rage. Mathilde, en touchant le sol de Paris, avait recouvré sa volonté d'enfant égoïste et capricieuse. « Pierre, dit-elle, tu vas rentrer chez toi. »« Non, je n'ai plus la force de te quitter. »« Il le faut, tu n'as pas d'ennui, toi. Comment vais-je excuser mon escapade chez mes parents? S'ils me renient, que deviendrai-je ? » ?»« Ils te chasseront et je le souhaite. Nous vivrons alors tous les deux ensemble en travaillant. » Travailler, c'est ce que je ne veux pas. » Tout contre elle, ardent, il apprêtait ses mains pour la saisir dès qu'elle s'envolerait. Sur la petite place de la gare, ils avaient beaucoup de peine à se faufiler entre les voitures. Elle plaisanta. « Nous attendrons pour vivre ensemble que tu aies fait fortune. » « Si je te disais mon secret, tu serais rudement surprise, terrifiée peut-être. » « Alors ne le dis pas. » Un fiacre retournant de la gare franchissait une des portes étroites de la grille qui ferme la cour pavée de bois. Mathilde, du trottoir, y grimpa lestement. Pierre menaça d'y monter aussitôt. « Laisse-moi, s'écria-t-elle, tu n'y gagnerais rien. »« Je te veux toujours. Descends ou j'appelle un gardien de la paix. » Pierre, dans la crainte de quelque expiation, descendit du marchepied docilement après qu'elle l'eût embrassé sur les joues. Il la salua de son chapeau longtemps avec ténacité. Mais elle, renversée sur les coussins, ne se retourna pas une fois, tandis que la voiture légère l'emportait au cœur de Paris, dans la nuit illuminée davantage. Rue Chauchat, en descendant du fiacre, elle sentit ses jambes fléchir. S'effrayait-elle, à la vue de cette haute maison respectable, de reparaître devant son mari? Sous la voûte, elle s'enveloppait de son manteau étroitement, comme pour cacher quelque empreinte de sa faute, lorsque la concierge, empressée, lui remit une lettre. « Oh, madame, vous voilà ?»« Oui, qu'y a-t-il donc ?»« Je ne sais pas, on vous croyait perdue, assassinée peut-être. »« Vous voyez que non. » Vive, affectant de l'allégresse, Mathilde monta. Là-haut, en effet, les Lampéry l'attendaient dans une désolation qui, déjà, paraissait irrémédiable. Il était 8 heures. Aucun d'eux ne s'approchait de la table qui resplendissait, comme d'habitude, d'ornements et de fruits. Sébastien et sa mère soupiraient, le mouchoir aux yeux. Seul l'oncle proférait de temps à autre un mot de consolation. Pour la 20e fois, Sébastien l'interrogea. « Comment as-tu donc fait pour perdre Mathilde ?» L'oncle, se gardant d'examiner tout haut le crime d'adultère qu'il soupçonnait chez une si belle femme mariée à son laideron de neveu, répondit « Je suis descendu du tram au point terminus selon ce qu'il avait été convenu. Elle a dû descendre plus tôt. » « Naturellement, mais tu aurais dû t'en apercevoir. » « Oh, je suis sûr que les Parisiens ne l'ont pas mangée. » « Alors, où est-elle ? » « Je n'en sais rien. » « La reverrons-nous ?» « Certainement. » L'oncle n'avait pas achevé son cri que le timbre sonna. Ils se dressèrent tous ensemble, contractés par l'angoisse. La bonne ouvrait la porte avec une telle précipitation qu'elle se trompait. On entendit la voix haletante de Mathilde sonner l'enfou dans les plis du manteau. Avant que Sébastien eût trouvé une parole, elle lui sauta dessus pour l'embrasser. Lui, d'une horreur instinctive, se recula, disant « D'où viens-tu ? » Elle se jeta, au lieu de répondre, entre les bras de sa mère Adèle qui sanglotait. Puis, avec une audace croissante, elle secoua méchamment par les épaules l'oncle qui, encore habillé de noir, avait essayé de l'embrasser lui aussi. C'est vous, lui dit-elle, qui avez tout causé. Où êtes-vous donc passé ce matin ?
Ma pauvre amie, je suis descendue du tram au point terminus et je vous ai cherché pendant 3 heures. C'était bête.
Je vous avais recommandé de descendre à la barrière du bois. Il y avait une foule. Enfin, je suis revenue sur mes pas en vous cherchant, moi, aux stations. Et je n'en puis plus.
Elle s'est vantée de son mouchoir, s'épongeait le visage, que froissait un peu tant d'émotion. Elle s'assit auprès de Mère Adèle, qui béatement la considérait, sans rien comprendre à ses explications. Sébastien, les poings aux hanches, sous les pans relevés de sa redingote, piétinait le tapis avec colère. « Passons à table, ordonna-t-il, nous éclaircirons cette louche aventure à notre aise. » Après que la bonne eut servi le potage, il reprit « Voyons, Mathilde, tu as cherché l'oncle tout ce matin, je l'admets. Cependant, ton déjeuner, ton après-midi, renseigne-moi posément sans t'emballer. » Mathilde lui toucha la main sur la nappe et, les yeux fiers de nouveau, les joues radieuses de santé, elle répondit « Je suppose que tu ne me soupçonnes pas de quelque méfait. Bien, alors je t'apprendrai, puisque tu ne devines pas, que j'avais honte d'avoir perdu ton oncle. »
Oh, oh, protesta celui-ci, je ne suis pas un enfant.
Je ne sais trop. Quoi qu'il en soit, lasse de mes recherches, j'ai déjeuné dans un restaurant très chic, mais très coûteux, que je n'ai pas facilement découvert dans ces parages si lointains pour moi.
C'est bon, dépêche.
Mathilde s'égarait dans son mensonge obscur. Elle raconta une promenade au champ de course et à Saint-Cloud, dans les bois, que l'oncle avait manifesté le désir de connaître. Le soir, une sorte de remords l'avait saisie, la peur qu'on eût tué son compagnon dans la foule. Elle était entrée à Paris à pied jusqu'à la Madeleine. Et là, brisée de corps et d'âme, elle avait pris une voiture pour arriver bien vite à la maison. L'effort de son mensonge la remuait d'une telle douleur qu'elle se mit à pleurer.
« Ne te chagrine pas, ma fille, lui dit Adèle. Je comprends que tu as dû t'affoler. »
« Oh oui, et encore, ici, on me soupçonne de je ne sais quoi. »
« Non, gronda l'oncle, personne ne vous soupçonne. »
Sébastien, en dépiautant une patte de poulet dans son assiette, baissait les yeux. Mathilde ne jouait-elle pas la comédie, ce soir, devant sa famille, comme naguère devant lui-même? Il avait, avant leur mariage, assez éprouvé sa volonté, son génie de ruse, pour avoir le droit de se méfier aujourd'hui. Pourtant, avec quel homme eût-elle trahi son époux? Il ne s'arrêta pas une minute à la pensée de Pierre, lequel était trop pauvre. Et pourquoi, d'ailleurs, l'eût-elle trahi? Pour provoquer une rupture, détruire à jamais cette fortune qu'elle avait tant enviée? Il s'apaisa lui-même par des raisonnements agréables. Ce qui l'empêchait d'absoudre tout de suite sa femme, c'était un sentiment orgueilleux d'autorité, le désir de châtier un peu, de s'attirer d'humbles prières. Elle se pencha vers lui avec bonté, baisa la main qu'il allongeait, inerte et molle, sur la table. Il frémit de plaisir. Rougissant de pudeur, comme un fiancé, il s'excusa d'avoir gardé si longtemps une sévérité bourrue. « J'ai souffert depuis midi les pires tourments. Pardonne, Mathilde, oublions tout, puisque te revoilà. Tu dois être éreintée. »«
Beaucoup.
Ne t'inquiète pas, nous irons nous coucher tôt. » La joie, meilleure après le désordre de la tempête, réunit de nouveau toute la famille. Au salon, les deux époux ne traînèrent pas longtemps. Mère Adèle, flanquée de l'oncle Alcide, qui portait le bougeoir, les accompagna dans leur chambre. Et bientôt, Mathilde, insensiblement, s'endormit entre les bras de Sébastien, sur sa poitrine, aussi massive qu'un oreiller.